Un grand nombre de divinités parcourent le monde de l'entre-terre, et on pourrait aller jusqu'à dire que les conflits qui traversent l'histoire d'Elden Ring sont intimement liés à ces entités que l'on nomme divinités extérieures. Formant à la base un tout appelé l'unique, ces divinités ont fini par se scinder en de multiples entités, chacune d'entre elles semblant être reliée à une flamme bien particulière. C'est l'événement que l'on pourrait caractériser comme étant le premier éclatement, celui qui donna naissance au cercle d'Elden tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le feu était une des thématiques centrales de la trilogie Dark Souls, mais là où dans cette saga le feu était unique et indivisible, il semble dans Elden Ring avoir été fragmenté en plusieurs concepts s'opposant encore aujourd'hui. La victoire reviendra à celui dont la flamme brûlera plus fort que celle des autres. Au rang de ces divinités, on peut recenser la Volonté Suprême, caractérisée par sa flamme sacrée et son avatar, la Bête d'Elden, la Flamme Exaltée, les Trois Doigts et Chabriri, la Flamme Noire, la divinité liée à la mort et la Reine Crépusculaire, ou encore la Mère Informe et son Feu Sanguin. Évidemment, la liste que je vous dresse ici est non exhaustive, je pourrais encore la compléter avec deux ou trois noms, et j'espère pouvoir vous les présenter plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais nous sommes ici pour évoquer une seule de ces divinités, le fameux dieu Cyclope et sa flamme de la ruine, l'une des plus dangereuses de l'entre-terre, puisque capable de brûler l'arbre-monde. D'après la description du bouclier Cyclope, on sait que cette divinité malfaisante, jadis vénérée par les géants, aurait été oxy par la reine Marika. Tout cela va nous permettre de parler d'un peuple passionnant et très important dans l'univers d'Elden Ring, le peuple des géants. La première chose sur laquelle il me paraît primordial de revenir est la variété de tailles et types de géants. Ces derniers ont traversé les époques et les conflits, et il n'est pas impossible que certains d'entre eux aient même vécu du temps de la divinité unique. Ce serait leurs cadavres que l'on aperçoit incrustés dans les parois rocheuses de Caelid ou de la cime des géants, et au vu de leur taille impressionnante, on pourrait presque parler de titans. Ces géants auraient pu perdre en envergure au fil des siècles et des combats, symbolisant leur perte de puissance. Ainsi, ceux que vous croisez vers la fin de la cime des géants sont moins imposants que le géant de feu, mais ils sont eux-mêmes plus grands que les trollfouisseurs, une autre race de géants que l'on croise assez tôt dans le jeu. Sur la description de l'épée de Milos, on lit que ce dernier était un géant de taille moindre, et que ses pairs le considéraient comme impur et terriblement grotesque. Je ne serais pas surpris qu'un certain racisme ou des discriminations aient pu exister de la part des géants les plus imposants envers ceux de moindre taille, considérés comme plus faibles. On pourrait même aller plus loin et supposer que les humains ne sont rien d'autre que des descendants des géants, mais de moindre taille. Encore une fois, cette idée est très présente dans la trilogie Dark Souls, où la frontière entre les géants et les humains semble floue. Dans la cinématique d'introduction de Dark Souls 1, les humains sont appelés pygmées, comme pour insister sur leur petite taille par rapport à leurs congénères, et notamment Gwen, le seigneur du feu, qui est lui présenté comme un dieu et un géant. Pourtant, quand on affronte Gwen à la fin du jeu, ce dernier a la taille d'un humain, pour symboliser sa perte de puissance. La frontière entre les géants et les humains est donc infime, et le rapport entre la taille et la puissance est très présent, donc je ne suis pas étonné de retrouver ces thématiques dans Elden Ring. Retenez bien cette idée, car elle prendra encore plus sens dans la suite de notre récit. Autant les plus anciens de l'entre-terre, durant l'antique civilisation de Uld, et plus tard durant la période des Nocriens, les géants prospéraient au nord. Ils vivaient alors, à l'époque, aux côtés des astrologues, comme nous l'indique la description de l'épée de la nuit ardente. Les astrologues qui précédèrent les sorciers s'établirent au sommet des montagnes les plus hautes, où ils considéraient les géants de feu comme leurs voisins. Si vous souhaitez en savoir plus sur les Nocriens de cette époque, je vous rappelle que j'ai évoqué longuement leur histoire dans ma vidéo sur Rani et la famille Caria. J'expliquais dans cette vidéo qu'à cette période, on ne parlait pas de sorciers mais d'astrologues qui basaient leur magie sur le mouvement des étoiles et de la lune noire. Cela pourrait expliquer pourquoi ils se trouvaient proches des plus hauts sommets de l'entre-terre, à proximité des géants. Peut-être même que les astrologues et les géants avaient alors pour habitude de commercer, et je faisais l'hypothèse qu'ils puissent avoir créé ensemble la race des albinoriques. Des êtres dont la taille semble grandement varier, et dans le cas de la première génération, ne peuvent pas tenir sur leurs deux jambes. Mais cela donnerait surtout du sens aux deux reines géantes se trouvant respectivement à Noxtella et à Nocron, les villes éternelles. Mais vous le savez, après l'avènement de l'Ordre d'Or, la religion des Nocriens a rapidement été considérée comme hérétique, et suite à une soi-disant trahison de ces derniers, ils ont été bannis sous terre sous un faux ciel étoilé, dont on peut imaginer qu'il est fait à base de pierres d'éclat. Ils sont encore aujourd'hui dans l'attente de celui ou celle qui viendra libérer la lune noire, et c'est cette fin que vous explorerez en suivant la quête de l'empyréenne Rani. Il y avait beau avoir une entente cordiale entre les géants et les astrologues nocriens, ce n'était pas vraiment le cas avec un autre peuple de l'entre-terre. Je veux parler du peuple de Zamor. Les Amoriens sont présentés dans le texte comme les ennemis historiques des géants. Sur l'armure de Zamor, on peut lire que ces combattants à la grande longévité, parés de vents mordants, sont les ennemis jurés des géants de feu depuis l'aube des temps. Vous les croiserez à plusieurs reprises de façon isolée dans le monde d'Elden Ring, mais en plus grand nombre lorsque vous arriverez dans les ruines de Zamor au début de la cime des géants. On peut donc imaginer un conflit d'ordre idéologique entre ces deux races, mais également territorial. Les Amoriens étaient sûrement les premiers sur ces terres, avant de voir les géants arriver lorsqu'ils ont migré pour rejoindre la flamme de la ruine. Cela semble bien confirmé par la carte de la cime des géants, qui nous indique que ces derniers se mirent en marche lors de la guerre. Ils taillèrent des sentiers tortueux à flanc de falaise, et ce jusqu'au sommet, conduisant aux contrées enneigées et inexplorées. Il est intéressant de noter que les Amoriens utilisent une magie à base de glace. Ils peuvent enduire leur lame de glace, mais ils peuvent aussi exhaler un souffle glaciaire, ce qui dénote une opposition plus symbolique cette fois avec les géants de feu. Enfin, il faut signaler que sur la description de l'armure de Zamor, on lit également que ces derniers furent acclamés en héros lors de la guerre contre les géants. On parle bien sûr de la guerre qui a opposé l'Ordre d'Or aux géants, et cela signifie donc que les Amoriens ont pris parti pour Marika au cours de cette guerre, y voyant certainement leurs propres intérêts. Et ça tombe bien puisque c'est justement ce conflit que nous allons dorénavant aborder. Il est possible que les géants et l'Ordre d'Or aient à un moment entretenu une relation plus pacifique, même si a priori, leurs relations fraternelles avec les Nocriens ne vont pas vraiment dans ce sens et n'ont pas dû arranger les choses. Ce dont on est sûr, c'est qu'à long terme, Marika a décidé de se retourner contre eux, certainement par peur de la flamme de la ruine et du dieu Cyclope qui pourrait brûler l'arbre-monde. Comme je vous le disais en début de vidéo, Marika a oxy le dieu Cyclope. Est-ce cet événement qui a mis le feu aux poudres? En termes de chronologie, à quel moment exactement Marika a-t-elle oxy le dieu Cyclope? C'est difficile à dire. En tout cas, cette guerre fut certainement l'une des plus sanglantes et terribles de l'histoire de l'Entre-Terre, à laquelle de nombreux peuples ont dû participer. On sait également qu'il s'agit d'un conflit au cours duquel Godfrey s'est particulièrement illustré. Relativement à ce que je vous disais en début de vidéo sur la potentielle ascendance des humains vis-à-vis des géants, l'arme Fléau des géants, une arme assez appréciée dans Elden Ring, présente une description intéressante. On y lit que lorsque la menace des géants fut éloignée et que les hommes commencèrent à s'entretuer, cette arme tomba dans l'oubli. L'humain est devenu faible comparé à ses ancêtres. C'est cette dernière phrase qui est lourde de sens, car elle suppose, ou plutôt vient confirmer, ce que je disais en début de vidéo, à savoir que les géants sont des ancêtres des humains, ce qui donne une saveur toute particulière à ce conflit. Si la vidéo vous plaît et que vous ne voulez pas que je vous jette dans les braises brûlantes de la flamme de la ruine, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Allez, bon visionnage ! Ce qui est intéressant également, c'est qu'en observant les géants du pic de la flamme, ces derniers semblent avoir été terrassés par l'affliction de la Malmort, avec ses ronces caractéristiques. C'est difficile à expliquer, mais je pense que dans sa guerre contre les géants, Marika aurait certainement reçu l'aide de la reine crépusculaire pour mettre fin au conflit. La Malmort est certes liée à Godwin, mais elle est avant tout liée à la mort, et l'incarnation de la mort à cette époque, c'est justement la reine crépusculaire et ses apôtres sanctechers. Mais ce ne sont ni les Amoriens ni Godfrey qui ont permis à Marika de l'emporter face aux géants. Marika doit en partie sa victoire à la trahison des trolls fouisseurs, que l'on apprend en explorant les environs juste avant le combat contre le géant de feu. La guerre contre les géants, les champions guerrois, les trolls trahissent, le feu se meurt, s'ouvre l'ère de l'arbre-monde. Deux informations capitales dans ce texte. D'une part, la victoire face aux géants a permis de réduire l'influence de la flamme de la ruine et d'assurer l'expansion de l'arbre-monde. D'autre part, cette fameuse trahison des trolls fouisseurs. Sur l'épée dorée de troll, on lit d'ailleurs que ces derniers combattirent pour l'arbre-monde lors de l'antique guerre contre les géants, mais on lit aussi qu'ils auraient perdu la raison. Alors les trolls fouisseurs ont-ils vraiment trahi leurs ancêtres ou ont-ils été contrôlés à l'aide des fameuses tablettes de pierre situées au niveau de leur ventre ? Je vous en parlais dans ma précédente vidéo où j'attribuais la création de ces tablettes à Mikaela, alias Sainte Trina, ce qui expliquerait la forte sensibilité des trolls à l'affliction du sommeil. Néanmoins, je vous expliquais aussi en début de vidéo qu'il pourrait exister une discrimination de la part des géants envers les races de taille plus modeste, ce qui pourrait expliquer qu'à l'origine, les trolls se soient rebellés avant plus tard d'être contrôlés et utilisés par l'Ordre d'Or. Et vous allez le voir, mais il se pourrait que les trolls ne soient pas les seuls à s'être rebellés au cours de cette guerre. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur les géants sans parler à un moment de Radagon, et de cette théorie selon laquelle il pourrait être un descendant des géants. Plusieurs choses ont pu donner cette impression. Tout d'abord la taille du personnage, qui n'a pas l'envergure d'un individu moyen, mais surtout sa chevelure rousse caractéristique, qui n'est pas sans rappeler celle du géant de feu, ou les tresses que l'on peut voir sur le sceau des géants. Mais comme souvent dans mes vidéos, je vais essayer d'aller un peu plus loin et tenter de comprendre comment et pourquoi ce personnage pourrait être lié aux géants. Les géants étaient un antique peuple de forgerons, ça on ne peut pas le nier. Cela nous est confirmé via de nombreux biais. D'abord le marteau, sur lequel on peut lire que l'art de la forge proviendrait des géants, ou encore le marteau de troll que j'évoquais plus tôt, dont il se servait comme d'instrument cérémoniel. On y lit qu'à cette époque, l'art de la forge était perçu comme sacré. Or, Radagon est un personnage intimement lié à la forge. C'est la première image que l'on a de lui dans la cinématique d'introduction en train de battre le fer. Il se bat justement avec un marteau de forgeron, et il a été rappelé par Marika pour assurer la stabilité du cercle d'Elden. Plus tard, quand Marika brisera le cercle, c'est lui encore qui sera là pour tenter de le réparer. Cela m'amène à vous reparler des chimères, dont je vous disais dans une récente vidéo qu'il pourrait s'agir d'un peuple de forgerons. Or, les data miners ont découvert dans le code du jeu que les chimères étaient désignées par l'alias Radagon's Childs, à savoir les enfants de Radagon, ce qui expliquerait comment elles se sont retrouvées en possession de ces armes légendaires. Les géants, Radagon, les chimères, tous les trois reliés par un même élément, l'art de la forge, vous avouerez que ça commence à faire beaucoup. A cet égard, la description de l'arme marteau en pierre peut être lourde de sens. On y lit qu'elle fut, je cite, « brandie par un ouvrier qui devint un champion lors d'une rébellion » et que la portée requiert véritablement la force d'un géant. Et si cet ouvrier n'était autre que Radagon, qui à l'image des trolls fouisseurs, eux aussi liés aux arts de la forge, se serait rebellé contre ses ancêtres. C'est comme cela qu'il aurait acquis le titre de champion et aurait été recruté par Marika et l'Ordre d'Or. Au moment où j'écris ces lignes, je me rends compte que ça me fait beaucoup penser au personnage de Sauron dans l'univers de Tolkien, un homme très puissant, habitué des multiples personnalités et profondément lié à la forge, notamment avec les anneaux de pouvoir. Ce ne serait pas étonnant vu que l'œuvre de Tolkien traverse tous les jeux de From Software. En termes de timeline, ça colle plutôt bien, vu que Radagon a commencé à vraiment s'illustrer pendant la guerre contre les Caria, qui chronologiquement vient peu de temps après celle contre les géants. Mais évidemment, cela relance le sempiternel débat autour de la dualité Marika-Radagon. Sont-ils une seule et même personne, ou ont-ils fusionné à un moment ? Si on suit la théorie que je viens de dérouler, évidemment qu'on part du principe que Radagon avait son identité propre. Mais l'inverse n'est pas forcément impossible. Si Radagon est une création de Marika, peut-être l'a-t-elle envoyée là pour avoir un loup dans la bergerie pour surveiller les géants et leur utilisation de la flamme. Comme toujours, c'est à vous de choisir la version qui vous convient le mieux. Je ne suis là que pour vous donner des pistes et sûrement pas pour vous dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Une fois sa victoire acquise sur les géants, Marika envisagea de détruire la flamme de la ruine, mais comme nous l'indique le souvenir du géant de feu, elle comprit que les flammes de la forge ne s'éteindraient jamais. Elle lui jeta alors une malédiction, l'obligeant à veiller sur sa précieuse flamme pour l'éternité. Ironie du sort, c'est cette même flamme qui permettra à Marika de brûler l'arbre-monde bien des années plus tard pour se libérer de son fardeau via Mélina. Certains guerriers furent alors choisis pour veiller sur la flamme de la ruine. Il s'agit des fameux moines gardiens du feu, que vous croisez à de multiples reprises en Entreterre, mais également les moines prélats, dont un que vous croisez près du manoir du volcan et qui vous droppe le fameux marteau du prélat. C'est intéressant car cela suppose que les terres de Rhaegard et le feu du volcan sont également liées à la flamme de la ruine, que Rhaegard se plaît à exploiter. Il en a d'ailleurs tiré plusieurs sorcelleries, comme la fureur de Gelmir ou la coulée de magma. Mais ces moines gardiens semblent avoir une fâcheuse tendance à se laisser corrompre, c'est notamment le cas pour Amon de la Flamme Noire, dont on dit qu'il aurait fui la flamme de la ruine par couardise pour se rapprocher des Sanctechairs. Cette propension des moines à trahir la flamme, on la retrouve dans la description du chandelier crânien, où l'on apprend que Birak, l'un des saints parmi les prélats, était inquiet devant la désinvolture des moines maniant la flamme des géants et que c'est pour cette raison qu'il se trancha lui-même la tête en guise d'avertissement. Malheureusement, cela ne suffit pas et ce qui devait arriver arriva, l'un des moines, du nom de Adan, parvint à voler une incantation qui renfermait en son sein l'essence du dieu Cyclope. Cette incantation, du nom de Flamme du Dieu Cruel, était dissimulée par Arganti, le chef des gardiens de la flamme. C'est intéressant car on comprend alors que les géants de feu avaient vraisemblablement réussi à enfermer le pouvoir du dieu Cyclope et n'étaient donc pas soumis à sa volonté. Mais Adan, en dérobant la sphère, a libéré la divinité extérieure et elle rôderait toujours parmi les géants de feu. C'est pour cette raison qu'elle apparaît notamment lors du combat contre le dernier survivant de cette race. En tout cas, bien qu'il ait réussi à fuir et à entraîner quelques moines dans son sillage, Adan n'aura pas réussi à aller très loin, puisque vous pourrez le retrouver enfermé dans la geôle éternelle du scélérat en Liurnia. Alors qu'en est-il du dieu Cyclope ? Est-il toujours en vie après votre victoire sur le géant de feu ? La flamme de la ruine brûle-t-elle encore ? Vous parler des géants fut un sujet passionnant pour moi, brûlant même si je peux me permettre le jeu de mots, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en devenant membre soutien sur Twitch ou sur la cagnotte Utip. Je publierai prochainement un petit programme des vidéos à venir sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, à très vite, ciao.